Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Nous sommes vendredi 19 novembre. Bonne journée, bienvenue au 98,5 avec des prévisions météo quand même assez intéressantes pour les... Je dirais le week-end, sauf peut-être dimanche, davantage couvert nuageux. 7 degrés, mais commençons par aujourd'hui. 4 degrés, donc on retrouve les normales de saison, avec un mélange de soleil, nuages et peut-être quelques flocons de neige. La probabilité demeure cependant faible. En soirée, partiellement nuageux, autour de moins 3 durant la nuit. Refroidissement éolien de moins 8. Et pour la fin de semaine, donc demain samedi, belle journée, soleil, quelques nuages, 4. Il y aura de la pluie possiblement dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour dimanche comme tel, nuageux, autour de 7 degrés. D'abord, Santé Canada va confirmer donc son approbation pour le vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans. Ce qui veut dire en pratique que la vaccination des enfants pourra commencer assez rapidement. Québec va donner le choix aux parents. Vous prenez rendez-vous sur Clic Santé quand on aura le feu vert, là, et l'autre option, l'école. Et on souhaite qu'une première dose soit donnée à un maximum d'enfants d'ici Noël et la deuxième dose au début de la nouvelle année. Il n'y a pas d'autres précisions. Il faut cependant, je regardais ce matin dans la presse, quelques chiffres qui sont intéressants. Selon une étude de McGill, il y a déjà 10% des enfants qui ont déjà été testés positifs à la COVID. Puis on l'a vu, le nombre de cas dans les classes... des éclosions. Alors, c'est quand même un nombre important des enfants montréalais, là, je tiens à préciser, qui avaient déjà été infectés. Deuxièmement, pour les parents qui prévoient voyager durant le temps des fêtes et dont les enfants ne seront pas pleinement vaccinés, ça vaut pour les gens qui sont pas vaccinés, pas juste les enfants, là. Au retour, la quarantaine est obligatoire. Là, vous allez dire, ouais, mais ça prend la double vaccination pour voyager. C'est-à-dire que pour les enfants, non, parce que le vaccin n'était pas disponible. Mais n'empêche que, au retour des vacances, ça veut dire 2 semaines de quarantaine. Et selon la date du départ, ça veut dire 2 semaines où on risque de manquer l'école. Et les profs le disent, les directions le disent. Il n'est pas question, là, d'ajuster, de faire des accommodements parce que quelqu'un s'absente volontairement en n'ayant en tête les conséquences. Pour ce qui est des autres modalités, ben on va attendre le détail quelque part la semaine prochaine pour cette vaccination. Dernier sondage, environ 61% des parents ont l'intention de faire vacciner leurs enfants. Dans la catégorie du refus, plusieurs refusent pour l'instant, je dirais. Plusieurs aussi, sont hésitants, voient pas nécessairement la nécessité. Puis là, je vous parle d'adultes qui ont eux-mêmes été vaccinés, mais qui sont pas certains que c'est nécessaire pour leurs enfants. Puis il y a les anti-vax, évidemment, tout court, là, qui sont contre la vaccination. On sait que la cible, c'est autour de 80%. Est-ce que ce sera atteint? On va voir. Mais ça va commencer quand même assez rapidement. Hier, le premier ministre Legault a commencé à parler de levée de consignes, un allègement supplémentaire, fin de l'état d'urgence. Il est à peu près temps là, que ça arrête. L'impression des fois que le gouvernement se sert un peu de ça. T'sais, il y a le pouvoir inhabituel qu'on a en temps de crise. Puis là, la crise est toujours là, je comprends, mais nettement moins sévère. Et M. Legault a dit, ben, probablement que quand les enfants seront vaccinés, on va laisser tomber l'urgence sanitaire. Donc, la plupart des consignes pourraient tomber. Mais c'est sûr que la façon de vivre a changé depuis le début de cette pandémie. De voir des gens qui portent le masque dans les endroits publics, comme on peut le constater dans des pays comme la Corée, le Japon, ça va devenir peut-être un peu plus fréquent ici. Puis la distanciation également, puis probablement que le lavage des mains. Bref, cette espèce d'éthique de vie qui s'ajuste avec cette nouvelle réalité. Et l'autre chose qu'il faut considérer, je regarde ce matin l'Autriche, par exemple, qui a décidé de confiner l'ensemble de la population, là, c'est tombé dans les dernières heures, et instaure une obligation vaccinale à partir de février. Alors, les cas sont nombreux en Autriche, on parle d'à peu près 12 000 cas par jour en moyenne, et on dit que ces mesures vont s'étirer pour un maximum de 20 jours. Au début, on devait y aller par région, mais finalement, c'est le confinement total. Et pour le mois de février, on souhaite vraiment instaurer la vaccination obligatoire de la population. Puis les Pays-Bas, un autre pays, il y a eu quand même une augmentation des cas. Puis pour conclure là-dessus, faut voir que dans les pays plus pauvres, les pays plus au sud, nous, on est en mode, évidemment, de la troisième dose pour les gens plus âgés, plus vulnérables. Mais Dr Joan Liu rappelle que c'est important, là, si on a une perspective hors frontières, que la vaccination puisse être accessible à l'ensemble de la planète. Parce que ce virus-là, parce que les gens vont se mettre à voyager, donc il va y avoir encore un potentiel, si on veut, de contamination. Maintenant, ce matin, je veux prendre deux secondes parce que la direction de l'école Joseph-François Perrault demande aux médias de laisser tranquille les étudiants. On comprend que quand le meurtre de Thomas s'est produit, il y a eu des jeunes qui se sont présentés sur les lieux, il y a eu des rassemblements en soirée, beaucoup d'émotions, puis des jeunes qui sont absolument troublés parce que c'est pas normal ce qui est arrivé, là. Puis il y a tout le mystère, pourquoi lui? Pourquoi un assassinat aussi froid, gratuit? Puis je vous ai dit ce que je pensais des médias qui vont cogner à la porte des parents pour arracher une entrevue, alors que ces gens-là ont le droit au respect, ont le droit à l'intimité pour vivre leur deuil puis cette douleur qui doit être insoutenable. Puis là, c'est au tour de l'école de dire, là, parce que là, il y a encore des médias qui traînent autour de l'école. Je veux pas donner de leçons, mais là, je comprends que les étudiants sont tannés et ce qu'on a compris hier en parlant avec le centre de service scolaire, là, c'est que eux-mêmes demandent à la direction de l'école de faire quelque chose. Alors, peut-être c'est bon de passer le message. Et entre-temps, des mesures de sécurité sont renforcées autour des écoles, de cette-ci en particulier. Là, ça prend une présence policière. Il faut que les policiers soient visibles dans le secteur. Puis pas juste là, dans les nombreux points chauds de la métropole. Quant à M. Trudeau, il n'a pas dit grand-chose hier concernant des mesures qui pourraient s'ajouter pour, je dirais, combattre le trafic d'armes illégales. Tu sais, rappelons-nous ce petit génie là qui avait sa petite maison sur la frontière avec les États-Unis, puis qu'on arrêtait qu'un sac de hockey, il y avait 200 quelques armes de poing, des fakes du plastique puis des pièces non identifiables. Ben c'est le genre d'individu comme ça qui arrive à faire entrer des armes, puis ces armes circulent facilement accessibles, ça tombe entre les mains des jeunes qui pour un oui pour un non sont capables d'ouvrir le feu sur quelqu'un. Je suis, comme tout le monde, j'espère en tout cas, l'enquête du coroner sur les décès en centre de soins de longue durée, le désastre, c'est un scandale national de voir autant de personnes décédées dans des conditions affreuses. Hier, c'est l'ex-ministre de la Santé, Daniel Mécan, qui a témoigné. Et ce qu'on remarque, c'est qu'elle met la responsabilité sur les PDG. Puis là, c'est pas trop clair parce que la bureaucratie a ce réflexe naturel de se protéger. Madame Mécan dit, au mois de janvier, on leur a dit, là, préparez-vous, là. Puis préparez, ayez un plan d'intervention dans les centres de soins de longue durée. Par contre, quand on regarde les procès-verbaux des réunions, janvier, février, on parle pas de ça. Puis là, je comprends Mme Mécan qui dit on a pris les décisions en fonction des informations qu'on avait. La chaîne de mensonges bureaucratiques est assez spectaculaire. Rappelons-nous, pendant la première vague, quand on disait on manque pas d'équipement. Mme Mécan répétait ça. L'impact limité sur les blocs opératoires. Je dis pas qu'elle mentait. Je pense qu'on lui disait pas toute la vérité. Puis là, ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est que ça relevait des PDG. Elle met la responsabilité sur le dos des PDG. Puis toute la question du transfert de patients vers les hôpitaux, elle dit, on a transféré, puis ça ne devait pas être si pire que ça, puis il n'y avait pas d'interdiction alors que les mémos. En résumé, puis je vais parler avec Maître Patrick Martin-Ménard, qui représente des familles, là, un peu plus tard, mais elle dit, s'il y a eu ce déraillement, c'est à cause des PDG. Et quand je vous dis que c'est assez troublant, jour après jour, d'entendre les témoignages de la machine, parce que là, on est dans la machine du ministère de la Santé. La Sûreté du Québec rend public aujourd'hui son nouveau plan, sa nouvelle politique qui s'appelle Vision Zéro, pour améliorer la sécurité sur les routes et les autoroutes du Québec. Je me méfie tout le temps des grandes phrases, là. Tu sais, tu dis, OK, mais ça veut dire quoi exactement? On va parler avec le capitaine Paul Leduc, qui est le responsable du service de la sécurité routière à la Sûreté du Québec, là. Parce que la phrase « la vie humaine est au cœur de nos actions », on est d'accord. Comme le patient est au cœur de nos préoccupations. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On va poser des questions, mais ce qu'on remarque, c'est que quand même, il y a une cible qui concerne les accidents avec blessés graves. Et une des mesures, puis on va se faire préciser ça, c'est une présence plus visible sur les routes du Québec. Combien de fois? Puis je vous dis pas qu'ils sont pas là. Mais vous faites un long trajet sur la 20, puis vous voyez pas d'autopatrouille de la Sûreté du Québec. Ça arrive assez souvent. En tout cas, c'est la perception qu'on a, puis c'est la perception qu'ont beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Puis qui se disent, il y a pas de police, on peut clencher. C'est un exemple. Et c'est clair que plus il y a de la vitesse, puis avec les autres facteurs, plus il y a un potentiel d'accident. Et quand la vitesse est élevée, puis vous savez, les gens mouraient il y a plusieurs années, mais les véhicules sont maintenant construits pour être plus sécuritaires. Et des gens vont s'en sortir. Ils seraient morts il y a 20 ans ou 25 ans, mais aujourd'hui, ils s'en sortent en raison de la qualité des véhicules. Mais ils s'en sortent avec des blessures qui peuvent être non seulement graves, mais vont garder des séquelles pour un certain temps. Donc, on va vous parler de ça. Monsieur Legault, qui veut améliorer le hockey, il y a une baisse d'inscription. Et là, il a mandaté des experts, notre collègue Danny Dubé, puis plein d'autres, là, Guillaume Latendresse, puis des gens du... Et c'est sûr que la manchette qui a frappé l'attention, c'était d'avoir plus de joueurs dans la Ligue nationale. Bon, tant mieux. Mais ce que les parents veulent entendre, je pense, puis on va pouvoir en discuter aussi ce matin, c'est le hockey est un sport qui coûte cher. Tu sais, c'est pas à dédaigner, là. C'est un argument, ça. Équiper un jeune pour qu'il joue au hockey, puis plus il va avancer, puis plus, s'il est bon et qu'il a du talent, là, c'est un investissement pour des parents, là. D'une part. D'autre part, des jeunes aussi s'ouvrent à d'autres types d'activités que le hockey. Tu sais, avant, le hockey, c'était comme un passage pratiquement obligé, là. Mais là, il y a plein d'autres choix qui se font. Alors, comment tu vas attirer des jeunes à pratiquer le sport? Puis pas avec l'objectif de jouer dans la Ligue nationale, avec l'objectif d'avoir du plaisir. Je parlais avec M. Thibault, le nouveau DG d'Hockey Québec. Cette notion-là qui, malheureusement, se perd... J'imagine que c'est moins fou maintenant dans les amphithéâtres, là. Il y a eu la pandémie, là, mais des parents en hystérie puis des parents qui poussent les enfants. On nous raconte parfois des histoires tragiques aussi d'enfants tellement sous pression que eux débarquent. Puis ça les intéresse plus de jouer au hockey. Alors, c'est l'objectif premier, là, c'est-à-dire de relancer la pratique du hockey au Québec. Rapidement, dans les autres nouvelles, je vais vous parler de cette joueuse de tennis qui est maintenant disparue après avoir porté plainte contre un haut dirigeant du Politburo chinois pour agression sexuelle. Alors, Peng Shuai, qui a d'abord parlé publiquement de cette agression sexuelle. Hier, on vous disait une espèce de message supposément d'elle, mais personne n'y croit, où elle dit qu'elle va très bien, Parce que là, personne ne l'a vu, ça fait plusieurs jours, là. On parle en termes de semaines. Et qu'elle dit que non, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, c'est un malentendu, puis bon. Quand on connaît les pratiques en Chine, c'est sûr que tu te dis, est-ce que c'est elle qui a écrit ça? Sans doute que non. Et où est-elle? Puis là, on s'en va vers les Jeux olympiques. Puis il y a toutes sortes de pressions qui commencent à flotter autour de la tenue des Jeux sur le gouvernement chinois. Puis il y a des gens qu'il faut boycotter. Voilà une femme, et c'est pas la première femme à qui on impose le silence, là, puis qu'on fait pratiquement disparaître en Chine. Et est-ce qu'on va tenir des Jeux? Les athlètes vont se rendre dans un pays où une joueuse de tennis est détenue? Et est-ce que c'est assez suffisant comme pression pour faire plier les Chinois? Bonne question. Mais c'est quand même, disons, une situation troublante. Également, parlons du sommet Mexique-Canada-États-Unis. Il y a toute la notion du protectionnisme américain de Joe Biden qui est pas, en tout cas, ne semble pas prêt à ouvrir pour permettre, disons, un véritable libre-échange, moins de contraintes avec le Canada et le Mexique. M. Biden n'a pas très, très porté sur la chose. Et les Américains sont comme ça. Acheter nos produits, mais en même temps, nous, on va se donner priorité. Puis, je pense que c'est pas mal le ton de Biden, qui donnait peut-être pas cette impression-là. Mais en tout cas, disons qu'il a adopté une stratégie économique très protectionniste aux États-Unis. Ça vient en plus avec son plan de relance. Et puis, un mot sur les inondations en Colombie-Britannique. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. L'armée a été déployée pour une période d'un mois. Et là, on a aussi imposé pour la troisième fois l'état d'urgence. Et on demande aux gens de limiter les achats. Ça me rappelle la pandémie, là, c'est-à-dire que les gens se lancent vers les supermarchés. Puis on pourrait même aller jusqu'à plafonner les prix. Parce qu'il y a comme une inflation galopante. Puis c'est une difficulté d'approvisionnement là, de tout ce qui est à l'ouest de Calgary, disons. Par exemple, les transporteurs sur route et autres. La chaîne de ravitaillement est comme assez perturbée. Alors là, on veut limiter les déplacements dans la province, particulièrement dans le secteur là, où il y a eu cette crue des eaux. Puis là, il y a comme une pause en termes de météo, mais il y a d'autres précipitations qui sont...
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Québec met sur pied un comité d'experts pour d'abord jeter un coup d'œil sur la situation du hockey au Québec puis proposer une série de recommandations. Le premier ministre Legault dit que, entre autres, il souhaite qu'il y ait plus de joueurs issus du Québec qui atteignent la Ligue nationale de hockey. Parmi les gens qui font partie du comité, d'abord le président, c'est Marc Denis, notre collègue Danny Dubé en fait partie, Guillaume Latendresse, plein de gens qui sont impliqués déjà dans l'univers du hockey. J'en parle avec Isabelle Charest, la ministre déléguée à l'Éducation et au sport. Madame Charest, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Pourquoi Québec sent le besoin de mettre sur pied un comité sur le hockey?
Ben, je pense qu'on est dans un contexte favorable. On est à la sortie de la pandémie. Bon, on constate plein de choses avec la pandémie. D'une part, qu'il y a eu une baisse d'inscription au hockey. Le contexte du hockey là est difficile ces temps-ci depuis quelques années. Là, on a un nouveau directeur général à Hockey Québec. On a déjà amorcé des travaux avec le hockey scolaire, le hockey civil. Donc là, je pense qu'on a justement un contexte favorable pour faire en sorte de voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu du hockey et arriver avec des solutions pour régler certains maux qu'on a dans ce sport-là, qui est notre sport national.
OK. Est-ce que, je sais pas, vous avez fait faire des sondages, pourquoi les jeunes sont moins inscrits, ça coûte trop cher? Avez-vous un début de réponse?
Ben en fait, ça va faire partie des travaux du comité de voir la situation du hockey au Québec. Bon, c'est sûr qu'on le sait, là, on a les chiffres du nombre d'inscriptions. Là, il y a une baisse d'inscription d'à peu près 10 000 participants depuis 2016. Alors ça, on a ces constats-là. Puis on a des représentants d'à peu près toutes les facettes du hockey sur le comité qui vont pouvoir aussi nous apporter le regard là, de comment se vit la situation dans leur organisation.
Puis là, je veux pas, comme on dit, me substituer aux membres du comité, mais moi, je reçois beaucoup de courriels de parents qui disent ça coûte trop cher, le hockey. En termes d'équipement, si vous prenez un sport comme le hockey, ça vous coûte tant par année, puis vous prenez un autre sport qui demande moins, les inscriptions dans les ligues, les déplacements, là, puis plus tu vas vers l'élite, plus ça coûte cher. C'est sans doute un enjeu important.
Oui, tout à fait. Et c'est probablement aussi le premier thème qui sera abordé, l'accessibilité. Donc, faire en sorte que, justement, le frein monétaire ne soit pas le frein pour faire en sorte qu'on a moins d'inscriptions. Mais aussi, on a une clientèle de nouveaux arrivants qui arrivent au Québec qui connaissent pas le sport. C'est aussi l'enjeu de l'accessibilité, de connaître le sport et tout, faire en sorte qu'on a moins d'inscriptions aussi, qui vont se tourner peut-être vers d'autres sports ou pas de sport du tout. Là. En fait, c'est surtout cette clientèle-là qui ne font pas de sport qui nous préoccupe davantage. Alors, évidemment, l'accessibilité est un frein majeur, l'accessibilité aux infrastructures. Bon, j'ai parlé tantôt un peu du sport scolaire, du sport civil. Il y a comme une fracture dans l'organisation du sport, du fait qu'on a comme deux structures en parallèle qui se parlaient mal. Bon, ça va beaucoup mieux depuis les travaux du printemps. Mais il y a quand même plusieurs aspects sur lesquels on peut travailler, en fait, que le comité peut travailler.
OK. Je prends votre cas. Quand vous avez fait vos premiers pas sur la patinoire et tout ça, puis que vous avez grandi, que vous avez atteint l'élite, que vous êtes allé au niveau international, qu'est-ce qui a fait en sorte, un, que vous avez accroché à ce sport en particulier, puis que vous avez eu la motivation de faire des sacrifices, puis d'aller jusqu'au bout?
Ouais, ben, je pense que la première chose qui m'a accroché, c'est l'amour du sport, l'amour de me retrouver avec des collègues, de me promener partout à travers le Québec, de pouvoir aussi avoir une ascension quand même assez rapide. Donc, tu sais, j'ai évolué quand même assez rapidement dans ce sport-là. Mais la première chose, c'est que j'avais du fun à patiner, j'avais du fun à être en compétition avec les autres. Et ça, je pense que c'est un élément sur lequel Monsieur Denis l'a mentionné beaucoup, Monsieur Thibault l'a mentionné beaucoup aussi quand il a pris le poste de DG à Hockey Québec. Il faut retrouver le plaisir de jouer au hockey. Et ça, je pense que c'est l'élément central. Et en fait, le besoin du jeune et de la jeune doit être au centre aussi des recommandations et des préoccupations pour émettre justement ces recommandations-là.
Mais la question plus générale, est-ce que c'est pas que des jeunes aient, justement, un peu comme vous l'avez décrit, là, du plaisir quelque part, c'est peut-être pas par le hockey que ça doit passer, mais ça peut être par un autre sport, ça peut être par une forme d'activité culturelle. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est un vieux réflexe au Québec de dire, il faut développer le hockey? Je comprends que c'est notre sport et qu'on aime bien ça, là, mais en autant que les jeunes sont occupés.
Oui. Ben, en fait, je pense qu'on n'est pas en opposition avec d'autres sports en mettant ce comité-là. Je pense que c'est justement de donner une opportunité supplémentaire pour faire en sorte d'occuper les jeunes. Donc, si on augmente l'accessibilité à un sport que déjà on aime, on le sait, tout le monde se rassemble, on l'a vu l'été dernier, tout le monde était suspendu en fait sur le bout de leur chaise pour voir les matchs des séries du Canadien. Alors, tu sais, on a cette affection-là pour ce sport-là. Donc, si on rend ce milieu-là plus attractif, plus sécuritaire, plus stimulant, plus intéressant, on va peut-être faire en sorte justement d'occuper des jeunes qui peut-être sont dans leur sous-sol puis qui font autre chose. Puis alors, je pense que le hockey est un bon moteur justement pour occuper nos jeunes. Puis en même temps aussi, ce qui aura été fait comme travaux par ce comité-là va pouvoir aussi peut-être s'appliquer à d'autres sports. Et c'est un début. Alors, on n'exclut pas d'envisager d'autres comités ou d'autres chantiers comme ça pour d'autres sports. Alors, je pense que c'est un début qui va faire en sorte justement d'occuper nos jeunes.
Bon, vous êtes ministre délégué à l'éducation, puis on parle de jeunes, puis on parle de sport, puis on parle de les occuper avec cette montée de la violence à Montréal, le cas du meurtre de cet adolescent, Thomas Trudel, 16 ans, par des jeunes qui décrochent, des jeunes qui sont désœuvrés. Comme ministre, puis j'allais dire comme femme, comment vous réagissez à ces événements-là? Puis je fais le tour là, de différents politiciens, politiciennes, des ministres. C'est comme si les gens ne savaient pas par quel bout prendre ça.
Ben, c'est sûr que comme femme, mon fils a 16 ans. Donc, évidemment, ça me perturbe énormément. Puis, tu sais, j'ai pensé à ça toute la semaine. Puis, tu sais, j'imagine mon fils qui arrive du parc parce qu'il fait ça lui aussi, là. Donc, évidemment, je suis perturbée comme plusieurs. Maintenant, c'est sûr que, moi, mon objectif puis mes moyens pour agir, c'est de faire en sorte justement de donner des opportunités. Puis on a mis en place un programme qui est le parascolaire où on donne une heure d'activité par jour pour les élèves du secondaire. Ça, pour moi, c'est un moyen qui justement va occuper les jeunes, qui va peut-être développer des passions puis qui va faire qu'on va sortir les jeunes de la rue puis on va les accrocher à l'école parce qu'on sait aussi que le sentiment d'appartenance fait en sorte qu'on va favoriser la réussite éducative. Alors, je pense que ça, c'est un moyen qui est fort. Évidemment, là, il se met en place, puis je pense qu'il fera des petits, puis il fera en sorte peut-être de sortir les jeunes de la rue. Mais des initiatives comme celle-là aussi, je pense, et puis, tu sais, quand on a comme mandat ou comme objectif de rendre le sport accessible, mais je pense que c'est une façon d'aider cette jeunesse-là.
Mais quand on dit rendre ça accessible, Mme Charest, ça veut dire aussi avoir des infrastructures qui ont de l'allure, là, puis... On fera pas l'histoire des écoles négligées puis des équipements sportifs négligés, mais t'as beau vouloir inciter des gens à faire du sport, il faut investir dans les infrastructures.
Ouais, tout à fait. Puis d'ailleurs, on a investi, on a lancé le programme PAFIR qui était conjoint avec le gouvernement fédéral où on a investi 294 millions en infrastructures. Et là, on a ajouté 175 millions en infrastructures aussi sportives. C'est toutes des infrastructures sportives. Donc, c'est sûr qu'il y a un besoin immense. Et encore là, on n'a pas fini de mettre de l'argent dans les infrastructures parce qu'on sait à quel point c'est nécessaire pour faire bouger les gens. Et qui a un besoin immense. Alors là-dessus, on va continuer d'investir aussi. Mais il n'y a pas juste les infrastructures, hein, y a le capital humain, puis ça aussi, ça fait partie des discussions et des thèmes qui seront abordés par le comité. On parle de la professionnalisation du métier d'entraîneur, d'arbitre et tout ça. T'sais, si on a des gens qui sont... Il n'y a personne qui a une mauvaise intention, je pense, quand ils s'investissent dans le sport, mais souvent, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de ressources. Alors si on peut faire en sorte que nos gens soient plus compétents pour accompagner nos jeunes, mais ça va peut-être faire en sorte qu'ils vont avoir une expérience plus positive, vont rester dans le sport, vont développer de meilleures aptitudes. Alors ça, je pense aussi ça va aider à notre jeunesse.
Je vais vous dire, la mauvaise performance du Canadien cette année, ça aide pas à tirer les jeunes vers le hockey.
Ben, encore une fois, c'est drôle parce que on dit à nos jeunes, c'est pas le résultat qui est important. Puis d'un autre côté, ben on tape sur la tête du Canadien parce qu'il performe pas. Alors, tu sais, faut pas avoir le discours des deux bords de la bouche. Je pense que pour nos jeunes, effectivement, faut se concentrer un petit peu sur le processus puis sur ce qu'on apprend. Puis peut-être être un petit peu plus indulgent avec les Canadiens.
C'est ça. Tu peux dire à ton fils ou à ta fille, regarde, là, c'est pas grave de perdre. Ça fait trois qui perdent en ligue.
Non, mais moi, c'est les contextes où j'ai le plus appris, où je me suis le mieux développé, c'est dans l'adversité puis dans mes épreuves, quand je tombais puis quand je me suis relevé. Alors,
c'est
voilà,
sûr.
C'est mon message sage du vendredi.
C'est très gentil. Bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir. Isabelle Charest, la ministre déléguée à l'éducation et au sport. Et on va en parler avec Alain tantôt, un petit peu plus tard. Danny Dubé qui sera là, puis Stéphane Quintal aussi. Donc, sur ce programme. Puis j'aimerais savoir vos courriels, vos commentaires là-dessus. Il y a des parents qui m'écrivent depuis hier puis qui me parlent un peu de ce parcours quand on accompagne un de ses enfants. Puis plus il progresse, plus ça coûte cher. Puis quand il est bon, ben ça coûte encore un petit peu plus cher. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps investi. Mais faut pas le faire avec l'objectif de la Ligue nationale. Comme dit Alain, là, c'est une fraction. Puis le bassin de repêchage est maintenant tellement large par rapport à il y a 20 ans, ou 25 ans, que c'est... Oui, il y en a qui atteignent la Ligue nationale, mais une poignée seulement. Il faut davantage, je pense, regarder ça comme amener les jeunes à faire des activités, à les intéresser, puis comme disait Luc tantôt, avoir du plaisir. C'est à peu près ça qui est le plus important.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien. On a, j'espère, un meilleur contact avec Dr. Quash. Alors, donc, on parlait justement des effets du vaccin chez les enfants. Il y en a peu, finalement, peu de séquelles ou d'effets secondaires, plutôt.
Donc, c'est ça. Ils n'ont absolument pas
Je m'entends encore en double.
Bon, ben, je pense que c'est... Je suis vraiment désolé, Dr. Quash. Je ne sais pas ce qui se passe. On va le laisser faire parce que, visiblement, on a un problème assez technique. Bon. J'attire votre attention ce matin sur les travaux de la coroner concernant ce drame, cette tragédie dans les centres de soins de longue durée. Hier, il y a eu des témoignages, plutôt en semaine, de hauts fonctionnaires. C'est l'ex-ministre de la Santé, Daniel Mécan, qui est venu témoigner. Et la question, c'était, est-ce qu'on avait des plans pour se préparer pour la pandémie? Dr. Arruda dit qu'il y avait déjà une préoccupation, lui, plusieurs semaines avant que les décisions soient prises au Québec, là, le confinement. Alors, tu dis, est-ce qu'on a préparé cette zone, donc ce réseau de centres de soins de longue durée, habité par des gens fragiles et vulnérables à la maladie? Et là, hier, il y a eu beaucoup de confusion. Et ça s'est terminé par les propos de Mme Mécan qui a dit, en gros, ben, c'était dans la cour des hauts fonctionnaires, des PDG. C'est à eux de gérer ça. J'en parle avec Maître Patrick Martin-Ménard, qui est avocat qui représente les familles de 6 patients qui sont décédés durant cette première vague. Maître Ménard, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais vous entendre là, sur ce que vous avez compris là, de la chaîne de décision concernant les préparatifs dans les centres. Est-ce qu'il y a des mémos qui existent? Est-ce qu'il y a des décrets? Bref, est-ce qu'il y avait vraiment un plan pour protéger les centres et les patients?
C'est clair qu'il y avait un plan qui datait de 2006, qui avait été adopté là, suite au SRAS là, de 2004 et qui prévoyait en toutes lettres le scénario qui s'est produit au printemps 2020. Donc, ce plan-là prévoyait des gestes très, très concrets qui devaient être pris dès l'apparition d'une menace biologique. Notamment, là, il prévoyait là, qu'on devait avoir une réserve centralisée là, d'équipements de protection, de masques, de gants, de jaquettes. Il prévoyait aussi là, qu'on devait mettre en branle là, des mesures de formation du personnel, élaborer là, des règles claires en prévention et contrôle des infections. Et ce qu'on constate, en fait, ce qui ressort clairement des témoignages qu'on a entendus cette semaine, c'est que ce plan-là a été carrément oublié, tabletté, et qu'on ne l'a dépoussiéré. On a commencé à l'activer seulement au début du mois de mars 2020. Donc, on a perdu de précieuses semaines à sous-estimer la menace que représentait la COVID et à ne pas faire ce que le plan prévoyait soit fait. Et ça, cette responsabilité-là ne revenait pas aux établissements, ça revenait au ministère de la Santé. Et on tente un peu de se dédouaner en prétendant qu'on a tenu des réunions, qu'on s'est bien préparé à partir de janvier, ce qui n'est pas le cas. Et on sait par ailleurs aussi des témoignages chaque semaine que la menace que posait la COVID-19 sur les CHSLD, elle, était connue depuis la fin janvier.
Bon, je veux encore être plus précis que ça, Maître Ménard. Là. Vous dites le plan existait, mais il n'y a personne qui l'a activé. Ça veut dire que dans les procès-verbaux, il n'y a pas de trace là, de quelqu'un au cabinet, la ministre, un PDG qui dit « sortez-moi le plan, puis on met ça en vigueur ». Donc, ça ne s'est pas fait.
La première trace qu'on retrouve du plan dans les procès-verbaux, à ma connaissance, est au début du mois de mars, là, une réunion du 9 mars, où là, on dit on va mettre à jour le plan, on va faire une annexe COVID et on va la faire circuler par après. Et on sait que l'annexe COVID n'a été envoyée aux établissements qu'après le début de l'urgence sanitaire, donc après le 13 mars.
Et toute la question des équipements, du personnel, est-ce qu'on était conscient de ça en janvier, février? Le réseau était affaibli, mais ça datait pas là, du mois de dans les semaines précédentes. Là. Fait longtemps qu'on sait que les gens vulnérables étaient dans un réseau vulnérable.
Absolument. La vulnérabilité du réseau, elle est même mentionnée dans le plan de 2006. On dit, en cas de pandémie mondiale, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un taux d'absentéisme de 30 à 35 % du personnel, ce qui va fortement hypothéquer un système qui est déjà fortement affecté par une pénurie de personnel. On savait ça en 2006 et c'est exactement ce qui s'est passé. Le taux d'absentéisme dans les CHSLD était entre 30 et 35 % au pic de la première vague. Même chose au niveau de l'équipement de protection. On mentionnait dans le plan de 2006 qu'une pénurie mondiale d'équipement de protection était à prévoir et qu'il fallait en conséquence avoir une réserve suffisante pour pouvoir faire face aux besoins grandissants de pays. Or, on n'avait pas en janvier 2020, de réserves centralisées d'équipements de protection individuelle. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Et ce sont des éléments qui ont joué un rôle clé dans l'hécatombe qui a frappé le Québec. Mais, parce qu'on n'était pas prêts.
Ouais.
Parce
qu'on, oui. Non, mais je vais dire, qu'est-ce que le plan disait au sujet du manque de personnel? Qu'est-ce qu'on devait faire?
Mais, qu'on devait prévoir le coup, qu'on devait prévoir aussi une organisation des services qui tienne compte de ce manque de personnel-là, en mettant nos priorités au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on sait essentiellement, on a été pris par surprise par l'ampleur que la crise a prise dans les CHSLD. On s'est retrouvé dans une situation où il y avait un manque de personnel à tel point que des résidents ne recevaient plus les soins de base. Ça, c'est le genre de choses qu'on aurait pu planifier à l'avance. Et une des choses qu'on aurait pu faire aussi, c'est justement planifier un peu le rôle que les aidants naturels avaient à jouer là-dedans. On a pris une décision très rapide et très improvisée là en mars 2020 d'interdire l'accès aux aidants naturels en CHSLD. Les aidants naturels qui viennent là, pour nourrir, pour hydrater leurs proches, qui ont un apport fondamental dans leurs soins. En interdisant les aidants naturels dans le contexte où on a eu des manques importants de personnel, on a créé là, une espèce de tempête parfaite où il y a des gens qui sont morts de faim et qui sont morts de soif en mars et en avril 2020. Et ça, c'est quelque chose qui était tout à fait évitable.
OK. Maître Ménard, un autre point. Est-ce que je comprends qu'il y a eu des visites d'inspection dans ces établissements et qu'il n'y a pas de rapport qui existe? Ce sont des transmissions orales ou... Bref, il n'y a aucune documentation qui permet de savoir ce que les inspecteurs ont noté.
Écoutez, c'est une grande zone d'ombre. On sait qu'on a appris l'existence de ces visites-là très tardivement dans l'enquête et on a appris par la suite que les données là, dans le système étaient écrasées au fur et à mesure qu'il y avait des mises à jour. Donc, on comprend que les rapports des visites là, ne seraient plus disponibles. Par contre, la coroner a demandé là, que cette information-là soit véritablement vérifiée. Écoutez, si c'est le cas, c'est absolument regrettable qu'on n'ait pas cette information-là très, très précieuse qui pourrait nous permettre là, de vraiment aller au fond des choses concernant là, la situation dans les CHSLD pendant la pandémie. Et c'est le genre de choses, effectivement, puis je vous dirais, c'est pas la seule chose. Là. Il y a plusieurs exemples d'informations qui n'ont pas été gardées, de directives qui ont été faites essentiellement verbalement, pour lesquelles il y a aucun écrit qui a été conservé. Donc, je vous dirais, la conservation d'informations puis la communication d'informations, là, c'était vraiment problématique pendant la pandémie. Ça, d'ailleurs, en passant, c'est un autre des points qui était mentionné dans le plan de 2006, qu'il fallait avoir là, un bon système d'information centralisé, organisé, et que c'était la façon en fait d'assurer que les directives passent bien du ministère vers les établissements. Et ça n'a pas été fait encore une fois.
Merci, Maître Ménard. Bonne journée, Maître. Patrick Martin-Ménard est avocat spécialisé en droit de la santé. Il représente, je vous le disais, les familles de 6 patients décédés de la COVID en centre de soins de longue durée durant la première vague.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Merci beaucoup. La Sûreté du Québec présente sa nouvelle politique concernant les accidents, en fait la sécurité routière, si on veut. Ça s'appelle Vision Zéro, puis l'objectif, c'est justement de réduire le nombre d'accidents mortels ou le nombre d'accidents avec blessés graves. Paul Leduc est capitaine à la Sûreté du Québec, chef de service à la sécurité routière. Monsieur Leduc, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Avant de parler du programme comme tel, là, si on regarde les chiffres pour les accidents mortels et graves au Québec, je sais pas, là, des 5 dernières années, c'est stable, c'est en hausse. Quel constat vous faites?
Ben, dans les 5 dernières années, on a une tendance à la baisse. Par contre, cette tendance-là semble atteindre un plateau. Dans les 2-3 dernières années, là, on tourne autour de 230-225 collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté du Québec. C'est pour ça qu'on arrive avec notre nouvelle stratégie qui s'appelle PISTE. C'est un acronyme pour partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation. On s'est inspiré de Vision Zéro que vous avez parlé au début, mais notre stratégie s'appelle PISTE et on l'a partagé avec l'ensemble des corps de police. Ça, c'est nouveau. On l'a réfléchi avec des gens du terrain, on l'a réfléchi avec des gestionnaires, on a mis beaucoup de monde à réfléchir quels seront nos objectifs pour les 5 prochaines années pour diminuer la tendance des collisions mortelles et des blessés graves. Et ensuite, on les a présentés à tout le monde, tous les corps de police, et on leur dit, on vous le donne, On vous l'offre, la stratégie. Vous pouvez mettre votre logo là-dessus, puis partir avec, puis que ça devienne une genre de politique cadre au Québec.
OK. Mais là, M. Leduc, moi, je suis quelqu'un d'assez concret dans la vie, là.
Allons-y.
Je comprends que l'automobiliste est au cœur des préoccupations. Je veux savoir concrètement qu'est-ce qui change dans les opérations de la Sûreté du Québec, par exemple, avec cette politique-là?
Dans un premier temps, ce qui change, c'est que l'ordre d'opération nationale concertée, on va rentrer le récréo touristique. Vous savez, le VTT, la motoneige le nautique. C'est dans ces endroits-là qu'on voit une tendance à la hausse depuis les dernières années. Il y a plus de monde en sentier. Vous savez, pendant la COVID, il y a eu une explosion d'achats de VTT, de motoneige et tout. Et ça, c'est des nouveaux conducteurs dans les sentiers qui ont peu d'expérience. Donc, on voit qu'il y a plus d'incidents qui surviennent. Donc, déjà en partant d'inclure, comme la semaine prochaine, là, quand on démarre notre mois sur la conduite, capacité affaiblie au volant, soit par la drogue ou l'alcool, ben on va inclure des opérations dans les sentiers en même temps. De plus, vous allez voir des opérations avec des corps de police différents. On invite maintenant les corps de police autochtones à participer à nos opérations nationales concertées. En fait, on invite tous les corps de police à participer en même temps. Donc, on y va avec concrètement là, des opérations tout le monde ensemble.
OK.
En même temps, ils travaillent sur la même cause.
OK. L'autre exemple, puis là, vous allez me dire que c'est pas vrai, mais la perception est là de gens qui roulent au Québec, par exemple, l'autoroute 20, puis qui se disent, je peux parcourir la 20, puis peut-être croiser un char de la sûreté, puis c'est tout. Là. Est-ce que ça veut dire que les policiers vont être plus présents, et non seulement présents, mais visibles?
Ben, je n'essaierai pas de vous dire, M. Arcan, qu'on fait Québec-Montréal sans avoir une voiture de police. Ça m'est déjà arrivé. Par contre, je peux vous dire que le quart de nos interventions sont faites sur les autoroutes. Donc, sur nos 500 quelques mille constats qu'on remet par année, il y en a 100 000 qui sont donnés sur les autoroutes. Nos 5 000 capacités affaiblies qu'on fait, ben il y en a au moins 1 000 qui sont faites sur les autoroutes. Donc, on a une présence sur les autoroutes. Mais vous savez, les 75% des collisions, le trois quarts des collisions mortelles qui surviennent, ça survient sur des routes à numéros. Je me souviens très bien que dans votre film, là, vous l'aviez très bien démontré que beaucoup de drames surviennent dans des routes à rencontre, puis c'est donc là qu'on travaille. On essaie d'aller au bon endroit, au bon moment, puis travailler sur les bonnes causes. C'est ça qu'on a changé dans les dernières années. On le sait où sont nos accidents, quand est-ce qu'ils surviennent, à quel moment de la semaine, puis à quel moment dans la journée, puis on essaye de mettre plus de police dans ces endroits-là, à ce moment-là.
Et là, je pose la question classique que, encore une fois, les auditeurs se posent. La limite, c'est 100 km/h. Mais dans la tête de tout le monde, là, on peut rouler facile 115, puis même peut-être 120, puis pas trop se faire achaler avec ça.
Ben,
je parle sur une autoroute là, à 100 km/h.
Tout à fait. Ça, là, c'est propre à chaque policier qui travaille sur une autoroute. Je le sais, j'ai travaillé pendant 6 ans sur les autoroutes et quand tu décides de faire du cinémomètre, ben, tu regardes ton environnement. C'est quoi la température? On est-tu sur un chemin en ligne droite? On est-tu sur... Puis là, tu prends ta décision, tu regardes la vitesse moyenne pratiquée, puis après ça, tu prends ta décision d'intervenir à la vitesse où tu veux intervenir. Je suis d'accord avec vous que la loi dit 100, puis à 101, vous êtes susceptible d'avoir un constat d'infraction, mais il s'en donne pas beaucoup là, à 105 km/h. Vous avez raison. Malheureusement, la vitesse pratiquée, elle est souvent au-dessus de 115, 120. On le voit avec nos photoradars qui sont aussi des appareils de mesure qui nous donnent la vitesse moyenne pratiquée, puis c'est toujours plus près de 120 que d'autres choses.
Parce que je pense que ça, les gens ont tendance à l'oublier quand on regarde les bilans. Bon, collision mortelle, c'est terrible, quelqu'un qui perd la vie. Mais les blessés graves, puis il y en a beaucoup de blessés graves, puis les autos sont mieux faites, les systèmes de protection, des gens qui seraient morts il y a 20 ans, qui survivent, mais ils survivent avec des séquelles, ils survivent avec, une diminution de qualité de vie pour le temps qu'il leur reste, souvent?
Ben oui, très souvent, puis ça, c'est, on travaille là-dessus beaucoup, on regarde les collisions mortelles, comme vous dites, la personne est décédée, c'est un drame, mais vivre une vie en chaise roulante suite à une collision, c'est aussi très, très grave, puis c'est une implication sur toute la famille. On est déjà à plus de 700 collisions avec blessés graves sur le territoire de la Sûreté du Québec depuis le 1er janvier. Donc, on essaie justement de voir les causes, puis les causes, c'est encore une fois la vitesse, la capacité affaiblie, puis la distraction qui sont nos trois causes principales. Donc, notre stratégie piste va travailler sur ces grandes causes-là. Puis ça fait des années qu'on en parle, vous et moi, là, ça n'a pas changé. Mmh. Donc, il faut continuer à trouver des stratégies, puis d'ajouter de la technologie. C'est le T de piste, c'est justement c'est pour technologie. Puis vous savez, j'ai vu dernièrement, pour vous donner un exemple concret, un appareil qui s'installe sur des infrastructures d'autoroute, comme un panneau, ça prend des photos à 45 degrés dans le véhicule. Et là, on voit si les gens portent leur ceinture ou s'ils manipulent un cellulaire à l'oreille ou sur leur cuisse. On va possiblement faire un projet pilote avec ces appareils-là au Québec dans les prochains années pour voir, premièrement, si ça fonctionne vraiment bien, tout ça. Par la suite, on verra si ça peut s'incorporer dans nos stratégies. Mais on est à l'affût des technologies pour venir nous aider parce que vous savez, M. Arcand, on peut pas rajouter des milliers de policiers, là, même si on aimerait bien ça. Mais on fait partie du gouvernement, puis il faut y aller avec ce que le gouvernement nous dit d'avoir comme effectif.
Merci, M. Leduc. Bonne journée.
C'est toujours un
plaisir. Au revoir. Capitaine Paul Leduc est chef de service à la sécurité routière à la Sûreté du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.